Alors, je vais demander à Michaël de venir. Et puis, il avait vraiment à cœur de partager sur la louange et l'adoration, je crois. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Chantal. Ceux qui espéraient la voir aujourd'hui, revenez la semaine prochaine. Elle sera là sans doute pour Pâques. On va être bénis. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Et vous en faites pas. Vous pouvez ranger vos portefeuilles. Je ne vais pas vous parler d'argent. Je ne vais pas parler de dîmes ni d'offrandes. J'ai vraiment quelque chose à cœur ce matin. Mais avant de commencer, je vais prendre un temps spécial parce que ce serait une mauvaise pratique ministérielle pour moi de venir ici sans honorer mes pasteurs, sans remercier Pasteur Réal pour votre fidélité, votre esprit de serviteur. Vous faites derrière le rideau ce qui fait que l'Église sur le roc est aujourd'hui. Je veux aussi vous remercier, Pasteur Chantal, pour votre foi, vos encouragements. Vous êtes un exemple pour ma famille et moi. Et vraiment, quand je préparais mon message aujourd'hui, je réfléchissais à moi-même et je ne veux pas raconter mon témoignage pour vous aujourd'hui, mais juste vous faire savoir que la raison pourquoi je suis ici ce matin, c'est parce que Dieu a été bon envers moi. La pire chose que Dieu a été envers moi, c'est bon. Si je suis ici avec vous ce matin, c'est parce que Dieu a été fidèle. Même lorsque moi j'ai été infidèle, Dieu a demeuré fidèle, car sa parole dit qu'il ne peut pas agir contre sa propre personne, il ne peut pas se renier. Si je suis ici ce matin, moi, c'est vraiment grâce à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. On ne reçoit pas la conséquence qu'on mérite. La miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu interrompt la loi de semer et récolter. La miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu t'empêche de récolter ce que tes choix ont semé. La miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu se positionne et se place entre mes choix et leurs conséquences. Et le point que j'essaie de faire présentement, c'est que tu es surpris que je sois ici. Je suis surpris aussi d'être ici. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que je fais ici. Je me demande aussi qu'est-ce que je fais ici. Peut-être que tu penses que je ne mérite pas d'être ici. Je sais que je ne mérite pas d'être ici. Mais j'ai quelque chose pour vous ce matin. Quand je pensais aujourd'hui, je me suis vraiment dit ce que j'ai à cœur. C'est qu'on a vraiment un rendez-vous divin aujourd'hui. Je suis venu préparer. Dieu veut que chacun d'entre vous soit ici ce matin pour recevoir ce que j'ai à donner. Parce que lorsque je parlais avec Pasteur Mafou, qui est un peu comme mon mentor de la situation avec l'invitation de Pasteur Chantal, et qu'est-ce que j'avais à cœur, Pasteur Mafou m'expliquait qu'un pasteur, c'est comme un berger de sa congrégation. C'est-à-dire qu'il gère la doctrine de l'Église, de son Église, mais également, il s'assure que ce n'est pas n'importe qui vient vous parler. Et donc, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui lance des invitations à tout le monde comme ça. Et donc, je vous remercie pour votre confiance, Pasteur Chantal. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus un grand pas de foi, vous qui me demandez de prêcher ou moi qui accepte de prêcher. Mais vraiment, je ne prends pas ça ici à la légère. Je ne considère pas que ce matin, c'est quelque chose qui m'est dit. C'est un privilège pour moi. Donc moi, je suis venu ici préparé. J'ai une exhortation pour quelqu'un. J'ai une parole d'encouragement. Carlos, j'ai un message à prêcher. Et donc la question, c'est, moi j'ai quelque chose à donner. Maintenant, êtes-vous prêt à recevoir? Et donc, on va pouvoir directement tomber dans notre verset d'aujourd'hui, qui se trouve dans 2 Samuel 6, versets 20 et 21. 2 Samuel 6, versets 20 et 21. La Bible dit, « David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Verset 21, « David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » J'aimerais arrêter ma lecture ici et prêcher sur ce sujet, et espérons-le, seulement ce sujet, aucune pierre. Aucune pierre. Rentrez avec moi en prière. Merci par Éternel pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci parce que le Saint-Esprit vient nous rencontrer aujourd'hui. Saint-Esprit fait seulement ce que toi, tu peux faire. Il vient toucher les cœurs, changer nos vies. Merci parce que je prie publiquement ce que je prie en privé, Seigneur. Tu viens prendre toute la place. Michaël diminue et toi, tu viens seulement être présent parmi nous. C'est trop précieux et puissant nom de Jésus que j'ai prié. Maintenant que le peuple de Dieu, que tous ceux qui s'apprêtent à prendre possession d'eux et recevoir, tous ceux qui s'apprêtent à marcher dans et témoigner d'eux, tout ce que Dieu a pour eux, disent Amen. Que les gens de foi disent Amen. Amen. Famille sur le roc. La plus grande bénédiction. Non, pas la plus grande parce que c'est ma femme. Donc, une des plus grandes bénédictions que Dieu a fait dans ma vie, c'est de me donner des parents qui ont la foi. Ce qui veut dire que moi, depuis toujours, je vais à l'église. Je pense, avant même d'être né, j'allais à l'église. Dans le ventre de ma mère, j'allais dans le sanctuaire. Ce qui veut dire que j'ai passé beaucoup de temps, les dimanches matins, des fois d'autres jours de la semaine, dans une église, ce qui veut dire que j'ai assisté à beaucoup de cultes différents. J'ai été dans des grosses églises, des plus petites, des églises où le service durait 3 heures. Tu as déjà été à 1 heure de l'après-midi, le pasteur n'a pas encore fini, tu as faim, tu as envie de partir, c'est long. J'ai été à des services où c'est beaucoup plus court. Et peu importe le type d'église où est-ce que j'allais, moi, ce qui m'a toujours passionné quand j'étais petit et ce qui me passionne encore, c'est regarder comment est-ce que l'église, comment la congrégation fait la louange. Parce qu'on dirait que comme chaque église a sa façon de faire la louange. Il y a des églises où la louange est seulement 15 minutes, il y en a d'autres que c'est presque tout un service. Il y a des églises que c'est quasiment un show avec les lumières, la machine pour faire la fumée, les musiciens qui ont quasiment des niveaux de professionnels. Il y a des églises, peut-être que mes pionniers de la foi vont pouvoir m'aider à témoigner là-dessus, où est-ce que tu vas, il y a un livret sur le banc d'en avant, tu le prends, le pasteur louange dit, tourne à la page 23, tu tournes, puis là, il y a les paroles des chansons, puis il y a une madame qui joue du piano en avant, puis on chante tous la même chanson comme ça. Et peu importe au type de louange que tu es habitué, peu importe ce que tu as connu, on dirait que chacun d'entre nous, on a un peu une définition de cette louange, ou peut-être que tu dis, je peux même pas la définir, tout ce que c'est que lorsque j'en vois, je la reconnais. Mais moi, j'aimerais rappeler à certains, et informer les autres, que peu importe le type de louange que tu connais, Dieu reste digne de louange. Moi, je suis venu ce matin au 5459 Boulevard Bourque pour rappeler à quelqu'un que Dieu est digne de louange. Moi, j'ai un mandat ce matin, c'est vous rappeler que Dieu est digne de louange. Que le Dieu qui t'a arraché du royaume des ténèbres pour t'amener dans le royaume de lumière est digne de louange. Que le Dieu qui t'a appelé de la mort à la vie est digne de louange. Que le Dieu qui t'a appelé de la maladie à la guérison, de la malédiction à la bénédiction est digne de louange. Que le Dieu qui t'a libéré, le Dieu qui t'a fait sortir de ton Égypte pour t'amener dans la terre promise est digne de louange. Que le Dieu qui t'a appelé et qui t'a destiné à régner avec lui est digne de louange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen ce matin? Amen et amen. Dieu est digne de louange. Et le fait que Dieu est digne de louange repose seulement sur sa personne et pas sur moi. Le fait que Dieu est digne de louange repose seulement sur sa personne et pas sur moi. Par conséquent, et c'est mon premier point, je ne peux pas laisser mes préférences ou ma personnalité m'empêcher de louer, parce que ça ne dépend pas de moi. Tu ne peux pas utiliser ta préférence, parce que parfois, je vais être transparent avec vous aujourd'hui. C'est important, je vais être transparent avec vous, parce que parfois, on va à certains services, puis on a l'impression que vu que ce n'est pas mes chansons, comme j'ai l'habitude, je ne peux pas vraiment louer. Parfois, on a l'impression parce que les musiciens, comment c'est si la batterie, c'est trop fort ou le piano, pas aujourd'hui, je ne le sens pas. Je ne peux pas m'abandonner à la louange. Mais la louange ne doit pas dépendre de mes préférences, mais elle dépend de qui Dieu est. Parce que la louange, c'est tellement important pour Dieu, comme quand on va être au ciel, on va faire ça beaucoup. Et longtemps. L'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Donc, et c'est tellement cher à son cœur, et on doit comprendre que la louange qu'on donne à Dieu, c'est une louange qui doit venir vraiment de nous, de qui on est. Parce que c'est pas parce que quelque chose est offert que Dieu l'accepte automatiquement. Et je sais, j'ai dit que je n'avais pas parlé de dîmes et offrandes. Laissez-moi juste faire une parenthèse. Parce que lorsqu'on regarde à Caïn et Abel, l'offrande de Abel a été acceptée, mais pas celle de Caïn, parce qu'Abel a offert à Dieu ce que Dieu voulait, Caïn a seulement donné ce que lui voulait donner. Et parfois, on a l'impression qu'on peut donner n'importe quoi à Dieu, parce qu'on pense que Dieu est un Dieu qui n'a pas de standard. Mais la façon dont Dieu nous a fait, comment tu as été formé, Jérémie 1, comment Dieu t'a formé pour son plan, correspond à une façon que tu dois donner la louange. Parce que certains d'entre nous, on loue Dieu avec les instruments. Pour d'autres, dit, je ne sais pas jouer l'instrument. Tu peux chanter envers Dieu. Si tu ne veux pas chanter, tu peux danser dans sa présence. Si tu ne veux pas danser, tu peux te prosterner à ses pieds. Si tu ne veux pas te prosterner, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu ne veux pas acclamer le Seigneur, tu peux pousser des cris de joie. Si tu ne veux même pas pousser des cris de joie, tu peux prendre une pause. Ce que la Bible appelle « Selah ». Le fait de se poser, prendre une interlude dans la présence de Dieu et simplement réfléchir à quel point Dieu a été bon envers nous. Et c'est pas la louange n'est pas une question d'uniformité, où est-ce que tout le monde doit louer de la même façon, mais c'est une question d'unité. Où est-ce que quand je le sens dans la pièce, les danseurs doivent danser, ceux qui lèvent les mains doivent élever les mains, ceux qui veulent chanter doivent chanter, ceux qui font de la musique doivent jouer des instruments, ceux qui crient de joie doivent pousser un cri de joie. Parce que la louange sert notre relation avec Dieu, elle n'est pas la substance. Tous ceux qui sont en couple vont comprendre que comment te sens-tu si ton partenaire ne te fait pas sentir apprécié et valorisé? Tu te sens distant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu réclame qu'on lui donne la louange. C'est ce qui lui est dû. Et qu'est-ce qui est fou pour certains d'entre nous, c'est que parfois on va dire, « Ah, oh, tu sais, je ne suis pas vraiment expressif, je n'aime pas vraiment m'exprimer comme ça. » Mais pourtant, lorsque tu es découragé, tu es capable d'exprimer ton découragement. Lorsque tu es en colère envers tes enfants, quand tes enfants sont sur tes derniers nerfs, juste ici, tout à coup, là, tu es capable d'exprimer tes émotions. Mais pourtant, quand on vient dans la présence de celui qui nous a sauvés, rachetés, on peut rester impassible devant sa gloire. On ne peut pas laisser notre personnalité ni nos préférences nous empêcher de louer. Parce que la louange est une... Ceux qui prennent des notes, prenez ça en note, en majuscule, surligne-le, souligne-le. Ceux qui écoutent en ligne, écris-le dans le chat, ils m'ont chargé de cours aujourd'hui. La louange est un lieu de victoire. Lorsque, on va aller à la Bible. Juge 1, versets 1 et 2. Juge 1, versets 1 et 2. La Bible dit, « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer. » Verset 2. L'Éternel répondit, « Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Pour bien comprendre la richesse du texte, tu dois comprendre qui est Josué et qu'est-ce qu'il représente. Josué, c'est le leader, le dirigeant spirituel, civil et militaire d'Israël. Josué, c'est l'homme qui a remplacé Moïse. Maintenant, tu penses que c'est dur, combler le poste que tu combles au travail, essaie de remplacer quelqu'un qui a séparer la mer en deux. Josué, c'est l'homme qui, lorsque Moïse envoyait 12 espions pour explorer la terre promise, sur les 12 seulement, Josué et Caleb avaient la foi pour la terre promise. Lorsque Josué a vu le lait et le miel, il a vu la provision. Lorsque Josué a vu les gens, il a vu la victoire. Josué, c'est cet homme. Josué, c'est l'homme qui encourage Israël à prendre possession de tout ce que Dieu a pour eux. Josué 18, verset 3, Josué demande à Israël, « Pendant combien de temps tu vas négliger de prendre possession de la terre promise? » La terre promise qui, pour nous, représente le salut, la vie que nous avons en Christ. Et lorsqu'on parle du fait que nous sommes destinés à la possession du salut, certains chrétiens pensent seulement et simplement que cela se résume à un billet pour le paradis. Mais le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas seulement payé pour mon billet au paradis. Christ a payé pour ma joie. Pour une joie qui n'est pas circonstancielle, mais christocentrique. Christ a payé pour ma paix. Pour une paix qui dépasse et surpasse toute intelligence. Ça veut dire que les autres regardent ta situation et ne comprennent pas pourquoi tu as la paix, et tu regardes ta situation et tu ne comprends pas pourquoi tu as la paix. Christ, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. La guérison, je la possède déjà. Christ a payé pour ma liberté. Christ ne m'a pas seulement sauvé de la punition du péché, il m'a sauvé du pouvoir du péché sur ma vie. Je n'ai plus à être esclave de rien du tout. Je vous l'ai déjà dit, mon Dieu n'est pas un Dieu de ceci ou cela. Mon Dieu est un Dieu de ceci et cela. Donc, je peux être sauvé, avoir du succès. Je peux être productif pendant le jour, avoir la paix la nuit. Je peux avoir une belle et grande maison et aimer tous ceux qui y vivent. Parce que l'Évangile de Jésus-Christ n'est pas seulement et simplement une meilleure façon de mourir. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est aussi une meilleure façon de vivre. Et c'est à quoi Josué encourage le peuple d'Israël. C'est à quoi il veut qu'Israël aspire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand celui ou celle qui t'encourage, toi, n'est plus là? Qu'est-ce qui se passe quand celui ou celle qui prie pour toi, qui intercède pour toi, n'est plus là, ou tu n'as plus accès à lui? Qu'est-ce qui se passe si Pasteur Chantal n'est pas là pour t'enseigner sur la foi. Qu'est-ce qui se passe si l'équipe de louange, si Thomas, si Yann, si Jacob, si Dwight, si Frank, si Chantal, si Martine, si Michael, si Martio, si on n'est pas là pour toi, si Martin aussi, je ne t'ai pas oublié, si Marie-Lou aussi, j'en ai oublié, mais non. Puis Marisa également. Si on n'est pas là pour t'encourager dans la louange, qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans cet état mental que se trouve Israël. Et alors Israël, qui s'apprête justement à affronter l'ennemi, se retourne vers l'Éternel pour demander conseil. Et Josué 2 dit, Juge 1, verset 2, je vais y arriver, là, dit que l'Éternel répondit, « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » La Bible Sommeur dit, « J'ai livré le pays en son pouvoir. » Où est-ce qu'Israël s'apprête à rentrer dans une saison de combat, après combat, après combat? Et Dieu dit, « Envoie Juda en premier. » Laissez-moi aider ceux qui ne comprennent pas. L'étymologie du mot « Juda » signifie « rendre grâce ». Juda signifie « louange ». Alors que tu t'apprêtes, et je ne sais pas c'est pour qui est en saison de combat pour sa vie, pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants, mais la stratégie que Dieu te donne pour 2024, c'est commencer à louer déjà. Parce que tu sais que 2024 est une année où est-ce que Dieu a le dernier mot, tu peux déjà commencer à louer. Tu peux déjà commencer à louer parce que tu sais que Dieu va gagner le combat. Tu ne vois pas encore l'ennemi, mais commence à louer. Le docteur vient te donner le diagnostic, tu peux commencer à louer. La porte vient d'être fermée, tu peux quand même commencer à louer. Parce que, voyez-vous, je veux dire ça se prêche bien. Mais moi, je ne veux pas être seulement quelqu'un de foi, je veux aussi être quelqu'un de mature, comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de louer alors que je suis dans une saison d'adversité? C'est parce que la louange requiert de l'intentionnalité. La louange requiert de l'intentionnalité. Ou est-ce que je ne peux pas être occupé à louer Dieu et élever mon problème? C'est un ou l'autre. Je ne peux pas être occupé en train de louer Dieu et glorifier ma montagne. C'est un ou l'autre. La louange requiert de l'intentionnalité. Donc, lorsque je loue, automatiquement, je remplis mes pensées des raisons pour lesquelles je loue. Où est-ce que je m'édifie moi-même? Où est-ce que je m'encourage dans la foi? Parce que la foi, c'est le simple fait de croire que Dieu dit la vérité en tout temps à propos de toute chose. Donc, je ne peux pas avoir le cœur vide de foi et la bouche vide de louange. C'est dès que j'ai le cœur plein de foi, j'ai la bouche pleine de louange automatiquement. Parce que si certaines personnes parlent l'anglais, d'autres le français, d'autres l'espagnol, d'autres l'allemand, mais ça d'entre nous parle la foi. La louange, c'est lorsqu'on parle la foi. On a tendance souvent à louer Dieu après qu'on a obtenu le miracle pour le remercier en reconnaissance, c'est bien. Mais pour certains d'entre nous, lorsqu'on loue, c'est aussi prophétique. Et lorsque je loue, ça requiert l'intentionnalité, donc je m'encourage également moi-même par la foi, et ça me rappelle que je sers le même Dieu. Le Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, le Dieu qui m'a donné Jéricho. C'est le même Dieu qui va me donner la victoire sur les Cananéens. Le même Dieu. Lorsque je loue face à l'adversité, je me donne la révélation de Jéhovah Nissi, Dieu mon étendard. Un étendard, c'est une bannière qui a élevé Israël pour signifier qu'ils avaient gagné. Jéhovah Nissi signifie que Dieu n'est pas seulement ce qui représente ma victoire, c'est la raison pour laquelle je l'ai obtenue. Jéhovah Nissi, c'est pour ceux qui ont la révélation qu'il y a certains combats que je ne peux pas gagner tout seul. Jéhovah Nissi, c'est pour ceux qui ne veulent pas seulement survivre, ils veulent vivre. Vous savez que les boxeurs survivent aux combats qu'ils perdent? Les boxeurs survivent aux combats qu'ils perdent. Je ne veux pas seulement survivre, je veux vivre. Jéhovah Nissi, c'est pour quand, lorsque tu te regardes dans le miroir et tout ce que tu vois, c'est un perdant. Jéhovah Nissi, Dieu combat pour moi. Et puisque Dieu combat pour moi, aucune arme formée contre moi ne peut prospérer. Non. Voyez-vous, des fois, on voit l'arme qui a été formée. On a tendance à paniquer. Mais Dieu dit, puisque je suis celui qui crée l'arme, je peux t'affirmer qu'elle sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi. Parce que des fois, tu veux appliquer ma adversité, c'est les gens qui parlent contre toi pour t'empêcher. Dieu dit, je vais les condamner. Tu n'as même pas besoin de les condamner, je vais le faire pour toi. Dieu combat pour moi. Donc, si mes amis viennent par un chemin, ils vont s'enfuir par sept chemins. Dieu combat pour moi. Même lorsque je suis face à mes adversaires, c'est-à-dire dans l'adversité, en plein combat, lorsque Dieu décide de me bénir Il est capable de dresser une table et de remplir ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde, la joie jusqu'à ce qu'elle déborde, la paix jusqu'à ce qu'elle déborde, la provision jusqu'à ce qu'elle déborde. Jéhovah Nissi, Dieu combat pour moi. Et donc, je ne peux pas laisser l'adversité m'empêcher de louer Dieu. Parce que Dieu combat pour moi. Et rien ne doit m'empêcher de louer Dieu. Si on retourne à notre texte d'aujourd'hui dans 2 Samuel 6, on doit comprendre dans le contexte que l'histoire, c'est fort intéressant parce que ça dit que David était en train de ramener tout d'abord l'Arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu. C'est l'Ancien Testament. On ne peut pas simplement avoir une relation comme ça avec Dieu. C'est l'Ancien Testament, c'est sous la loi. Donc, il y a l'Arche de l'Alliance qui représente la présence et Dieu ramenait dans sa ville et tout le peuple était dans la joie. Mais seulement, Israël louait Dieu, adorait Dieu de la façon qu'Israël voulait et non pas comment Dieu voulait. Donc, lorsque Uzza a voulu toucher l'Arche, ce qui n'était pas permis, il a voulu bien faire, mais Dieu a des standards. Uzza est mort, tombe de mort, David est, comment est en colère, est attristé, il décide de laisser l'Arche de l'Alliance dans la maison de Obed-Edom. Et après quelque temps, on va aller lire la Bible dans 2 Samuel 6, verset 12. Après quelque temps, 2 Samuel 6, verset 12, la Bible dit, on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. Tous les parents ont dû dire amen. Parce que puisque la présence de Dieu était dans la maison d'Obed-Edom, tout ce qui est dans la maison a été béni. Tous les parents auraient dû dire amen. Parce que maintenant, je veux que tu penses à ton enfant, lui qui te garde réveillé la nuit. Lui pour lequel tu dois le plus intercéder. Lui que l'ennemi veut te décourager pour faire croire qu'il est déjà perdu. Le diable est un menteur. Les enfants prodigues reviennent à la maison maintenant. Le Saint-Esprit vient les chercher. Ils sont destinés à la possession du salut. Et peut-être qu'il a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, peu importe, même si physiquement il est à l'extérieur de la maison, spirituellement, il appartient encore à ta maison. Et toute la maison sera bénie. 2 Samuel 6, verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. C'est parce que David a laissé l'Arche de l'Alliance qui représente la présence dans la maison d'Obed-Edom et il reçoit la nouvelle que justement toute la maison d'Obed est bénie. Bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Parce que la présence est dans la maison. C'est le même principe qu'on voit dans Exode 1. Lorsque la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, et un homme parle avec son ami, et dit, « Qui vas-tu envoyer avec nous dans la terre promise? » Puis Dieu dit, « Je vais venir avec vous. » Et Moïse répond, « Tant mieux, parce que si toi tu ne viens pas, nous on ne va pas. » Car c'est ta présence qui fait la différence. Ta présence est manifestée sur nous par la faveur qui est sur nous. Parce que puisque la présence de Dieu est dans ta vie, il y a une faveur spirituelle qui est sur toi. Une faveur. Une faveur qui est sur toi, qui est en toi et qui est pour toi. Ou est-ce que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer? Ou est-ce que Dieu ferme des portes que personne ne peut ouvrir? Car il y a une faveur sur ta vie. Il y a une faveur. Et lorsque David entend justement parler des bénédictions qui sont sur la maison d'Obed-Edom, il décide de ramener à nouveau l'arche dans sa ville. Alors, lorsque l'arche est en route, tout le peuple est dans la joie, parce que le peuple a connu qu'est-ce que c'est de vivre sans la présence de Dieu. Donc, lorsque la présence vient, les gens dansent, poussent des cris de joie, il y a des sacrifices qui sont offerts, et alors que tout le peuple est en pleine réjouissance, la femme de David est en train de... La Bible dit qu'elle le méprisa. Maintenant, imagine, tu rentres chez toi en route aujourd'hui, ta femme te dit comment tu as joué du piano aujourd'hui. Vraiment, c'était pas. Tu as trop fait. T'as sa propre femme, alors que tout le monde se réjouit, elle t'occupe à mépriser son propre mari. Tout le monde est dans l'adoration, elle t'occupe à mépriser son propre mari. Parce que lorsque tu es trop occupé à regarder aux autres, tu ne peux pas t'occuper à louer Dieu en regardant à lui. Et si on retourne à 2 Samuel 6, versets 20 et 21, David s'en retourna pour bénir sa maison Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, des serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. » Verset 21, « David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef. » Parce que la raison pourquoi David dansait autant, c'est parce qu'il se souvenait comment c'était d'être dans le pâturage avant d'être dans le palais. Parce que lorsque tu penses d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es maintenant, automatiquement la louange découle de ça. Et c'est fou parce que David, justement, c'est un homme, vraiment un homme du cœur de Dieu, vraiment adorateur, qui a la louange à cœur, qui a écrit un livre complet sur la louange. Et vraiment, c'est parce qu'il se souvenait. Il dit à sa femme, « Toi, tu as toujours connu le palais. Donc, tu ne peux pas comprendre comment c'est d'être dans le pâturage. Comment est-ce que Dieu m'a élevé? Dieu a relevé sa tête. Il est sa gloire. » Et donc, David, justement, qui ne peut pas laisser sa propre image de soi. Je veux dire, c'était le roi. Mais il s'est amené humblement devant la présence de Dieu. Parce que peu importe ce que tu es à l'extérieur d'ici, en sa présence, on est tous pareils. Il n'y a pas de rang. Seulement des serviteurs. Et donc, tu ne peux pas laisser ton propre orgueil t'empêcher de louer. Ou est-ce que tu dis, non, je suis chef d'entreprise, je ne peux pas lever les mains. C'est parce que Dieu t'a établi chef d'entreprise que tu peux lever les mains. Et tu ne peux pas laisser l'opinion des autres non plus. L'opinion de sa propre femme qui le méprisait. Elle dit, tu ne peux pas comprendre. C'est entre Dieu et moi. C'est vraiment ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a été pour moi et tout ce que Dieu a fait. C'est pour ça que je loue. Et tu ne peux pas laisser ton statut social et économique t'empêcher de louer Dieu. Ce n'est pas une raison. L'opinion des autres, ce n'est pas une raison. Et c'est pour ça que lorsque tu vois quelqu'un à l'église qui loue d'une façon que tu trouves étrange, peu importe, tu dis, « Ah, pourquoi est-ce qu'elle pleure comme ça? » Tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu a fait pour elle cette semaine. Et si tu savais, tu louerais avec elle. Et je vais vous amener une autre écriture. C'est dans Luc 19, 37 à 40. Luc 19, 37 à 40, la Bible dit, « Et lorsque, déjà, il approchait de Jérusalem, en parlant de Jésus, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu, à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Parce que lorsque tu penses à tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce qu'il a été, automatiquement la louange en découle. Verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, parce que l'esprit religieux veut tout de suite t'empêcher de louer de ta propre façon. » Verset 40, Jésus répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » J'ai appelé ce message « Aucune pierre. » Parce qu'on peut, on veut rien laisser nous empêcher de louer à un point tel où est-ce qu'on ne veut pas que les pierres louent à notre place. Parce que pour certains d'entre nous, on laisse des choses empêcher. Notre image de soi, l'opinion des autres, l'adversité, nous empêcher de louer, donc il y a des pierres qui louent à notre place. Et je dois encore nommer deux ou trois choses qui sont sur mon cœur, qui parfois nous empêchent de louer, qui nous empêchent de louer Dieu convenablement. Premièrement, des fois, c'est l'amertume. Lorsque Dieu n'a pas agi ou n'a pas fait ce que tu pensais que Dieu allait faire, Dieu n'a pas fait le miracle pour lequel tu avais la foi. Maintenant, tu es fâché après Dieu. Quand tu viens dans sa présence, quand tu viens à l'église, tu restes impassible devant sa gloire parce que tu attends que Dieu se justifie. Parce que tu penses que tu tiens Dieu presque comme, comme otage pour ce qui s'est passé. Et tu ne dois pas laisser ça, tu ne dois pas laisser l'amertume t'empêcher de louer. Tu ne dois pas retenir ça pour toi, tu dois venir déposer cette blessure au pied de l'autel. Et c'est pas, ce que je dis, c'est pas juste l'oublier, faire comme si jamais arrivé. C'est pas comme ça qu'on guérit d'une blessure. Mais c'est simplement être capable de passer au-dessus. Livre des Lamentations dit, Lamentations 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repenser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, ta fidélité est grande. Je ne peux pas laisser ma propre blessure m'empêcher de louer Dieu. Aucune pierre. Finalement, ça c'est lui qui pèse sur mon cœur. Je ne peux pas laisser la condamnation m'empêcher de louer. Ou est-ce que l'œuvre qui a été accomplie à la croix, le sang n'a pas perdu son pouvoir? Ou est-ce que, des fois, dans notre culture qui est axée sur la performance, on a tendance que si j'ai une moins bonne semaine, je ne peux pas m'emmener en sa présence. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu te justifie que tu aies une bonne ou une mauvaise semaine. L'expiation du péché signifie que le sacrifice à la croix a apaisé la colère de Dieu. Dieu a fait ce qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Il s'est réconcilié avec nous par lui-même. Le voile a été déchiré. Avant, il y avait un temple. C'est le seul endroit où Dieu venait. Il y avait un voile qui séparait. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait traverser le voile pour aller dans sa présence. Lorsque Christ est mort à la croix, le voile a été déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que Dieu lui-même a déchiré le voile. Il a enlevé la barrière qui nous séparait de lui. Nous avons été réconciliés. Dieu n'est pas fâché après toi. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas tes péchés. Il voit la justice de Christ. Ce n'est pas les pires péchés que tu as faits. Tu as été pardonné. Et Christ n'a pas seulement porté nos péchés à la croix, il a également porté notre honte. Je vais finir sur ce dernier verset. C'est dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Tu ne peux pas venir dans sa présence avec honte, tu peux venir avec assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Lorsque tu as honte de toi-même, que tu as l'impression que tu as trop mal agi, c'est à ce moment-là que tu vas venir dans sa présence pour recevoir la grâce et la miséricorde dont tu as besoin. Dieu n'est pas fâché après toi. Rentre avec moi en prière. Merci, Père éternel, pour qui tu es et tout ce que tu fais. Merci pour aujourd'hui. Merci parce que, alors que moi je peux parler d'une congrégation, Seigneur, toi tu touches les cœurs. Tu viens transformer les vies, Seigneur. Tu viens vraiment donner un Ézéchiel 46, Seigneur. Où est-ce qu'on vient ici, on reparle transformé et changé. On te remercie déjà d'avance, parce que te connaissant comme nous te connaissons, on a déjà obtenu les choses pour lesquelles on a demandé, Seigneur, pour lesquelles on a prié. C'est au précieux et puissant nom de Jésus que j'ai prié. Le peuple de Dieu dit Amen et Amen.